Donc, je suis régisseuse au sein du service de la régie des œuvres du Centre Pompidou, qui est un service de 30 personnes constitué à la fois de régisseurs et de régisseuses d'œuvres d'art, mais aussi d'un atelier d'emballage et d'une cellule camionnage. Donc, ce service fait partie de la direction de la production du Centre Pompidou et qui est chargé de la conception et de la mise en œuvre logistique et technique des activités artistiques et culturelles qui sont mises en place par les autres directions, dont le Musée national d'art moderne et le département du développement économique et international, par exemple. Donc on est vraiment une direction support de mise en place de projets. Donc je parlerai ici uniquement du rôle des régisseurs et régisseuses dans la circulation des œuvres du MNAM, donc des prêts sortants lorsqu'elles sont accordées en prêt à d'autres institutions, mais mon service s'occupe aussi des prêts entrants lorsque nous produisons des expositions in situ, enfin, avant la fermeture et à la réouverture du Centre Pompidou. Donc nous sommes chargés de la coordination et de l'organisation des mouvements d'œuvres d'un point de vue juridique, administratif et logistique. Le service participe au comité de prêt que vous a présenté Raphaël Bianchi, où nous émettons des avis consultatifs sur les projets de prêt lorsqu'on identifie par exemple des problématiques de délai, d'interexposition qui peuvent être un peu courtes ou des difficultés pour l'acheminement des œuvres dans les lieux d'exposition en raison de leur dimension par exemple. Donc, comme vous l'avez compris, les œuvres du MNAM sont beaucoup prêtées et prêtées pour des projets qui sont de nature et de format très variés, aussi bien sur le territoire national qu'à l'international. Ce qui implique qu'on rencontre des problématiques sur le plan logistique qui sont très différentes selon l'échelle du projet. On doit prendre en compte dans notre métier un certain nombre de facteurs pour déterminer les modes de conditionnement et les modalités de transport des œuvres, mais aussi les plannings de réalisation des opérations afin d'anticiper les risques au maximum. On travaille donc très en lien avec les différents corps de métier du musée, comme aussi les restaurateurs, les attachés de collection, mais aussi tous les autres intervenants de la chaîne, comme les transporteurs, les assureurs, etc. Donc on doit prendre en compte la nature et la fragilité des œuvres. L'approche est différente lorsqu'on transporte un plâtre de Giacometti ou de Brancusi qu'il voyage de l'autre côté de la Seine ou aux États-Unis, ou si on transporte une photographie récente, encadrée, qui fait aussi un petit trajet et qui est en bon état. Donc la question des accès et de l'acheminement des œuvres en caisse est un vrai sujet, et notamment dans l'art contemporain, comme on l'a vu dans les exemples qui ont été présentés ce matin. Ce qu'on doit aussi prendre en compte dans l'organisation des opérations, c'est les valeurs d'assurance des œuvres. Le capital total d'une exposition a beaucoup de conséquences sur l'organisation des opérations et notamment sur le nombre d'expéditions et les modalités de sécurisation qu'on doit prendre en compte. Et enfin, les délais, c'est un peu le nerf de la guerre parce que toute l'organisation doit être pensée en fonction de la date d'ouverture de l'exposition qui est vraiment tout ce vers quoi tout ce travail concourt. Sachant qu'on a, comme le soulignait Raphaël, de moins en moins de souplesse et des délais de plus en plus contraints pour organiser les projets. Donc je vais prendre comme exemple une exposition hors les murs qu'on a organisée l'année dernière et cette année, Couleurs, chef-d'œuvre du Centre Pompidou, qui a d'abord été présentée au Grimaldi Forum de Monaco à l'été 2025, avec 170 œuvres, des peintures, des objets design, des sculptures, et puis dans une version plus réduite au Mingsheng Art Museum de Pékin début 2026. Donc pour la première étape à Monaco, c'est un projet sur lequel on a travaillé 3 ans avant l'ouverture de l'exposition, depuis les premières négociations sur le contrat et la liste d'œuvres jusqu'à la phase opérationnelle. L'organisation elle a été facilitée par tout un réseau d'intervenants et d'infrastructures de transport sur le territoire national qui sont bien stabilisées et bien connues du service de la régie des œuvres. En raison des valeurs et du volume, on a dû diviser les expéditions en 5 semi-remorques en échelonnant les départs sur plusieurs jours, en prévoyant des convoiements, un overnight en entrepôt sécurisé parce qu'on ne pouvait pas faire chargement, transport et déchargement dans la foulée. Voilà, des camions qui ont pris la fameuse route Paris-Nice dont vous parliez ce matin, mais pas la N7, plutôt l'autoroute. Ça n'a pas empêché quelques imprévus, parce qu'on rencontre beaucoup d'imprévus dans notre métier. Un camion qui est trop petit par rapport à la taille d'une caisse, par exemple. Mais quand on parle de transport routier sur le territoire national, on a une faculté de pouvoir réagir aux imprévus dans des délais qui sont raisonnables. On parle de quelques heures de retard, de un ou deux jours s'il faut réorganiser les choses. Mais ça permet de concevoir des plannings d'installation qui sont très précis grâce à ça. La deuxième étape de l'exposition a été décidée au moment de la clôture de la première et organisée en 4 mois seulement. Lorsque le Centre Pompidou a été sollicité par le Mingsheng Art Museum de Pékin, qui démarrait donc une programmation d'exposition internationale. Donc on a l'habitude d'organiser des expositions en Chine, notamment au Centre Pompidou Shanghai, où nous avons une antenne depuis 2019. Mais là, il s'agissait d'un nouveau partenariat, dans une nouvelle ville, avec un nouveau transporteur local, et dans des délais très courts. Donc pour cette seconde étape, 69 œuvres ont été conservées dans la liste. Pour s'imaginer, une fois les œuvres emballées, cette exposition représente quand même un volume de 4 semi-remorques, 152 mètres cubes, 80 mètres carrés au sol, 15 tonnes d'œuvres d'art et de caisses à expédier sur 4 vols cargo. Donc, à partir du moment où l'organisation d'une exposition internationale est dépendante du fret aérien et des règles des zones aéroportuaires, d'autant plus dans un pays avec des fortes contraintes administratives et dans une période géopolitique complexe, ça signifie qu'on a moins de maîtrise sur le déroulé des opérations. Et c'est de plus en plus complexe de faire respecter nos standards habituels en matière de transport d'œuvres d'art. Donc on doit en permanence estimer les risques, s'ajuster, faire des compromis. Ça s'est particulièrement illustré dans l'organisation du retour de l'exposition, où en raison des différents conflits actuellement dans le monde, avec un prix du fret qui explose, donc le prix du fret est une donnée qui est non fiable en avance, les compagnies peuvent la modifier de manière très rapide. Ça met les organisateurs en difficulté pour organiser des opérations de transport, avec notamment la diminution de fréquence des vols par les compagnies aériennes, l'annulation, par exemple là dans notre cas, des réservations qui avaient été faites sur une compagnie pour tous les retours de l'exposition. Le refus des compagnies de fournir des palettes exclusives, ce que nous demandons par exemple dans ce genre de projet. Le refus d'avoir des convoyeurs à bord des cargos pour accéder à leur zone de fret et accompagner les œuvres sur tout leur trajet. Donc il a fallu, une fois que le chantier d'exposition avait commencé, tout réorganiser les opérations de transport. Sachant que les œuvres devaient être absolument restituées rapidement, car certaines d'entre elles étaient prévues immédiatement après pour d'autres projets d'exposition. Donc on ne pouvait pas se permettre d'étaler le retour sur très longtemps. Par exemple, toutes les œuvres devaient repartir de Pékin, mais finalement 3 vols sur 4 ont dû repartir de Shanghai. Ce qui veut dire qu'il a fallu organiser un transport en camion supplémentaire de 2 jours entre les deux lieux, avec un overnight qui ne peut pas se faire dans un entrepôt sécurisé, parce qu'en Chine, il n'y a pas le même maillage qu'on a en Europe d'entrepôts sécurisés sur tout le territoire. Donc ça demande aux partenaires de négocier avec des musées locaux qui peuvent accueillir les camions en sécurité pour la nuit. Sachant que... l'administration chinoise est très provincialisée, donc un transporteur n'a pas les mêmes autorisations en fonction de la région, et donc on n'a pas pu avoir les mêmes accès à l'aéroport de Shanghai qu'on aurait pu avoir à l'aéroport de Pékin. Donc voilà, tous ces imprévus doivent être anticipés enfin, lorsqu'on organise des transports d'œuvres, en tout cas, peuvent arriver, et c'est important de l'avoir en tête lorsqu'on organise des expositions internationales. Et voilà, il y a eu d'autres imprévus, comme du surbooking fait par une compagnie ou un avion en panne. Donc tout ça, ça nous oblige, dans les préconisations d'emballage, à demander des caisses qui permettent d'atténuer les variations climatiques. Donc quand on fait des prêts à l'international, on demande des caisses super isothermes, justement pour qu'elles puissent protéger les œuvres au mieux, même dans des conditions qui ne sont pas optimales. Donc on a vu au retour de cette exposition que les œuvres sont revenues en bon état, même si elles n'avaient pas pu être dans un environnement climatique stable pendant toute la durée de leur transport et plus longtemps que d'habitude. Voilà. Malheureusement, ce sont des emballages qui nécessitent beaucoup de matériaux pétro-sourcés, du bois, et pour lesquels on n'a pas encore vraiment d'alternatives équivalentes, satisfaisantes sur le marché. Il y a beaucoup de réflexions en cours sur des emballages plus écologiques pour des transports routiers de petite distance, mais pour des transports de longue distance avec du fret, on est encore très dépendant de ce type d'emballage. Donc là, c'est un peu une adresse aux chercheurs et aux sociétés de transport pour continuer à creuser avec nous ces sujets. Donc voilà. Et ce dont on parlait ce midi avec certains, c'est en contrepartie, le Centre Pompidou essaye de conserver ces emballages qui ont été fabriqués pour des expositions internationales afin qu'elles puissent être réutilisées, réemployées pour les autres projets de prêt pour d'autres expositions.
De réutilisation des caisses. Il y avait autrefois un gaspillage terrible. Toute caisse utilisée une fois était jetée. Donc bravo à vous de mener ce type de...
On ne peut pas le faire de manière systématique parce qu'il y a des questions de stockage et de vieillissement aussi des emballages. Mais quand on fait fabriquer des caisses super isothermes, on essaie de les garder le plus longtemps possible pour qu'elles puissent resservir. Mais c'est vrai qu'on n'est pas exemplaire non plus. Entre l'étape de Monaco et l'étape de Pékin, il a fallu refaire la majorité des caisses de l'exposition parce que les premières n'étaient pas prévues pour un transport international.
Et les réserves externalisées, donc, seraient où ?
Elles sont à Paris et en Ile-de-France, dans plusieurs lieux, dans l'attente de l'ouverture des nouvelles réserves de Massy au sud de Paris.
Il y a d'autres demandes de questions ? Merci.
So we will pass to the next session. So strategy and context of the logistics. And normally was David Pecker who wanted to come, but we will have some notes. He sent us some notes. So it will be a student. He's not a representative of David Pecker, but he will read some phrases of his speech. And after them, we will have two representatives of the great Dunkirk. So was one of them is Maxence Apollos. Maxence Apollos reprints as a grand port and maritime in Dunkirk, a major player in international trade. So if you don't know, maybe the port of Dunkirk is the third most important of France. So we welcome Maxence Apollos from the grand port of maritime in Dunkirk. Can you come here? Who will bring the perspective of major port infrastructure to issues of traffic and logistics. And also Julien Catoun. So also works with the Grand Port Maritime in Dunkirk, and we are also pleased to welcome Julien Catoun representing the Grand Port Maritime to Dunkirk. His experience will complement the operational approach to logistics. And also my colleague Jean-Bernard Bouyabé, he is a professor in economics. So we'll start with the text of David Parker, who is from the British Museum.
Good afternoon, everyone. My name is Augustus Fadaka. I'm running my master's program here at HUCO, International Trade B2B Marketing. So I'm reading to us today the objects of the British Museum. Most registrars seek risk management as a fundamental aspect of their role, or more precisely, the art of the possible within a changing landscape of risk. At the heart of this understanding at the British Museum is our risk register. This is not particularly agile framework of over 400 individual risk scenarios covering the museum's building, its visitors, its staffs, its collections, its financial stability, and its reputation. This was reviewed and updated quarterly, not so much the risk headings, but whether the factors influencing likelihood controls or mitigations, and therefore in part had changed to give a new overall rating. Generally, it is helpful in framing individual loan request cases within the process of approval, but it is not very responsive to organizational change. In that change of ownership of a given risk can be complicated to explain or reassign. At the moment, the British Museum is trying to simplify the risk framework by tying it firmly to the principles contained in the Orange Book Management Risk 2023, produced by the UK government for public sectors bodies. Overall, we also have mechanism in the British Museum to consider the effectiveness of our risk measures in the forms of an internal audit process, checking our workings and trustee level oversight by reporting to the Audit, Risk and Compliance Committee. The basic collection risk headings are relatively few: theft, vandalism, protest, impact, vibration in transit, handling, dissociation, fire, flood, pest, environmental, seizures, the list goes on. One of the reasons we have so many risk headings is because we introduce location and context. Each of these basic risks but drawn out separately in further context. This means static versus in transit, in store versus on display, at British Museum or between British Museum sites versus loan venue. This reflects the changing balance or interplay of risks depending on what is happening and where the object is, and it allows a more nuanced assignment of risk ownership different posts within the organization towards those better able to consider the risk and control mitigations. Clearly, this means that control over risk mitigation for objects outside the British Museum, or indeed other people's objects traveling to the British Museum, can lie with the registrar teams, abide with the detail and helpful inputs from curators, conservators, and technical teams. Personally, I have tried to maintain two guiding principles through my career as a caseload handling registrar. One, can I account for what will happen to an object at each stage of his journey to a venue and back again? From the point it leaves its usual location to when the display case is closed and until it is back in the British Museum gallery or storage location. This I would run through as a personal eternal checklist for each loan, and if I cannot, I work to understand why I do not know. Why I do not know what could happen to the objects in those contexts, therefore applying appropriate mitigation. The goal is to minimize uncertainty and delay. Two, I will not ask anything from borrowers in terms of security, environment, handling, or expenditure that is widely different from what we can provide at the British Museum, unless we are knowingly entering an arrangement with a significantly increased risk factor. Example, seizure. The British Museum is now embarking on a project that it may not have approached before, which is welcome and exciting, but we need to do it with our own eyes open and a realistic consideration of what we will do if it starts to go wrong. In some instance, this could apply more to our careers than to the collection. There can, of course, be more deteriorations of conditions, such as an outbreak of hostilities, a situation we have faced directly with loans in Qatar and in the United Arab Emirates, and indirectly with closure of airspace imparting loans traveling onto destinations further east, flight rerouting or cancellation. This latter situation will now take abroad almost as business as usual, partly from the experience of the eruption of Ejafjallajökull in 2010 and the resulting extended closure of European airspace carried into the pandemic and then the post-pandemic shortage of flight capacity worldwide. We find frequently that former routes have been cut back, discontinued, or subject to last-minute change as airlines try to flex in an economically more challenging setting. We might need to change our risk approach to extended road transfers or routes without infrastructure for Palestinian flight, meaning delay and uncertainty. That's the word from David Parker.
Troisième port de France. On a réalisé globalement l'an passé un trafic de 48 millions de tonnes, tout trafic confondu. Alors c'est vrai qu'on reste quand même un port industriel à la base, hein, avec notre client principal qui est ArcelorMittal. Sur les 48 millions de tonnes, rien que pour la partie Arcelor, on compte déjà 12 millions de tonnes d'apport de vrac. Donc au revoir Arcelor, c'est un quart de notre activité. Quelques grands chiffres avant de commencer la présentation. Donc le troisième port de France, 48 millions de tonnes. On parle souvent du conteneur en fait. C'est vrai que le conteneur c'est dans l'air du temps. C'est aussi un projet stratégique qui s'appelle le Cap 2020 qui va arriver après dans la présentation. On est encore un tout petit acteur en fait, il faut le savoir, sur le marché du conteneur. Même si on a des flux depuis 10 ans, on a vraiment un trafic qui démarre. Moi pour ma part, alors je commence à être un peu un ancien au port. Moi je suis rentré en 2004. Et en 2004 on avait fait 160 000 EVP. Tout le monde sait ce que c'est un EVP, un équivalent 20 pieds. C'est la norme de pontage dans les ports, en fait. C'est les TEU en anglais. Donc moi, quand je suis rentré en 2004, 160 000 EVP. On vise 1 million l'an prochain. Et avec les futurs projets que Julien vous présentera tout à l'heure, on va viser dans 2 ans l'équivalent de entre 2,5 millions et 3 millions d'EVP. Donc voilà. Pour se donner... Une petite idée, une marge de grandeur sur ce marché du conteneur. Je fais un focus sur le conteneur parce que forcément je pense que les œuvres d'art sont transportées dans des conteneurs. Donc je parle pas de l'avion, hein, je parle vraiment du maritime. Donc voilà, le petit focus conteneur. On a fait l'an passé, j'ai rempli à 900 000 EVP. Nos concurrents, Anvers est à 3 000, Le Havre est à 3 millions de EVP aujourd'hui. Anvers 12 millions, Rotterdam 14. Shanghai, ça fait 5 ans qu'ils ont déjà fait 45 millions de VB. C'est-à-dire qu'ils font en 10 jours ce qu'on fait en un an. Voilà un peu sur le marché du conteneur où on est situé. Quoi. En gros, le port, c'est 7000 hectares. Le port reste l'entité GPMD, port d'État. On reste propriétaire foncier des terrains. C'est pareil là, c'est pareil à Marseille. Donc toutes les entreprises ou les entrepôts que vous voyez sur la zone Dakar, enfin, sur la zone portuaire, nous payent en fait un loyer. C'est comme ça que les ports gagnent de l'argent, en fait, si je puis dire, d'une part avec les loyers et d'autre part avec les droits de port. C'est-à-dire que les armateurs, qui sont les clients du port, les CMA, CGM, les MSC, les MERS et j'en passe, payent pour pouvoir faire des opérations commerciales et que leur bateau charge ou décharge leur conteneur ou autre cargo. On va faire une présentation à deux voix.
Du coup, bonjour à tous. Julien Catoun, attaché commercial au Grand Port Maritime de Dunkerque. Merci pour l'invitation du jour. Donc on est là avec mon collègue Maxence pour vous expliquer un peu en quoi le port de Dunkerque peut vous permettre des connexions avec tout l'écosystème portuaire et notamment des solutions de transport. Juste pour que vous ayez une petite idée, le port de Dunkerque, Maxence en a parlé, c'est 750 000 EVP, contrairement à un port du Havre qui est à 2,5 millions, ou Anvers, Rotterdam qui fait 13 millions d'EVP. On se situe quand même en support, en alternative pour ces ports du Nord, Orange Nord-Europe, et notamment dû au fait qu'on se trouve au milieu entre Londres, Bruxelles, Amsterdam, Paris, des zones super conséquentes pour l'art, pour la culture. Et au-delà de l'aspect maritime, en fait, la bataille du maritime aujourd'hui va se faire plutôt non plus en mer, mais également sur les solutions qu'on appelle solutions multimodales, l'intermodalité. Ici, vous voyez sur cette carte, le port de Dunkerque, il permet une desserte également par voie ferroviaire, grâce au train, à destination de l'île d'Ourges. Ensuite, sur ces ports-là, ces ports intérieurs, on va venir éclater la marchandise jusqu'au sud de la France, voire par la suite, on le verra, Lyon, voire l'Italie. Et on a aussi quelque chose qui peut intéresser le domaine de l'art, c'est la barge, la solution fluviale. En effet, aujourd'hui, grâce au canal à grand gabarit qui sort ou qui rentre depuis le port de Dunkerque, on est capable d'aller acheminer de la marchandise depuis le port international, le port de Dunkerque, vers des zones comme l'île d'Ourges et par la suite, vous l'avez sûrement entendu, le canal Seine-Nord. Le canal Seine-Nord, ça sera vraiment un avantage pour le port de Dunkerque dans le sens où aujourd'hui, vous avez à côté de chez nous le port du Havre, le regroupement de ports Le Havre, Rouen, Paris, qui grâce à la Seine va permettre d'acheminer auprès de grands musées, la région parisienne, de manière fluviale. Demain, le canal Seine-Nord va nous permettre également d'avoir une solution un peu plus verte, un peu plus vertueuse, mais au-delà de l'aspect environnemental, on aura aussi cet aspect volume poids qui va permettre d'acheminer des sculptures de grand gabarit, des œuvres d'art qui sont plus conséquentes, qui dépassent les dimensions qu'on peut retrouver au sein d'un conteneur. Donc ça, c'est vraiment un avantage qu'on aura dans les années à venir. Pourquoi on vous présente Norvik ? En fait, on fait partie d'une association avec les ports du littoral. Vous connaissez tous Calais, qui est un peu plus dédié sur le ferry, le transmanche, voire le tunnel, qui va vous permettre d'aller en Angleterre. Mais sachez, on le verra, que Dunkerque est également une place qui permet d'acheminer de la marchandise du fret à destination de Douvres 12 fois par jour, Roselaar en Irlande, à hauteur de 8 fois par semaine, et on travaille aussi sur un service à destination de Rosyth en Écosse, près d'Édimbourg. Donc c'est des solutions qu'on a à proximité. On indique également le port de Bonne-Sauveur, ça ne vous concerne pas, mais c'est pour la transformation de la filière halieutique, et les ports intérieurs sur lesquels on va s'appuyer pour le transport intermodal.
C'est vrai que je vous ai expliqué tout à l'heure, la zone foncière portuaire fait 7000 hectares. Alors, 16 km de façade maritime. Et sur ces 7000 hectares, alors il y a des grands noms de l'industrie. Hein, on va retrouver Arcelor, Dillinger pour les plus anciens. Mais sur la zone un peu sur l'Aune plage et Gravelines, où est la nouvelle zone où les nouvelles implantations développent. Enfin, tout simplement parce qu'il y a encore du foncier disponible. Donc on va avoir des nouveaux acteurs, notamment autour de la filière de la batterie. Vous avez tous pas entendu parler de Vercor, qui a démarré sa production. Demain, il y aura Prologium, il y aura Neomat, qui est un groupement entre le chinois XTC et le français Orano. Donc voilà, ça c'est tous les gens qui sont présents sur la zone dunkerquoise. Et sur la zone industrielle-portuaire. Quelques grands chiffres tant que j'y suis. Il y a environ 7000 bateaux qui escalent chaque année à Dunkerque. Voilà. Et je parlais du foncier en fait, et ça c'est encore un vrai avantage pour nous. C'est qu'on a encore du foncier disponible en fait. Vous voyez, il y a des zones où il n'y a encore rien, par exemple là. On a encore un petit peu de zone où on peut encore développer soit de la logistique, soit des implantations industrielles. Et pourquoi je dis que c'est un vrai avantage pour nous, c'est que vous allez chez nos ports concurrents, Le Havre ou Anvers, qui eux, enfin, ces ports-là, sont archi-saturés. Donc quelqu'un qui voudrait s'implanter chez nous, par exemple ici, demain, imaginons, un projet fou, 150 hectares, qui est énorme, il serait quasiment encore à moins de 5 km du terminal à conteneurs. Vous faites le même projet à Anvers ou au Havre, alors, je ne suis même pas sûr qu'il vous l'accorde, mais vous êtes minimum à 40 km. Donc c'est-à-dire que le brouettage qu'on appelle le brouettage portuaire entre le quai et le site de production, l'entrepôt, c'est plus les mêmes coûts en fait aujourd'hui. Et donc ça c'est encore un vrai avantage pour nous. On a encore 2000 hectares disponibles Alors sur les 2000 hectares, c'est pas tout à fait vrai, parce que maintenant, en fait, avec l'État, quand on crée une zone, on doit laisser des mesures compensatoires pour la nature, en fait. Et donc, c'est-à-dire qu'on est du 1 pour 1 aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que si on crée 150 hectares d'industrie, imaginons, il faut remettre 150 hectares quelque part de compensation naturelle. Ça, c'est à l'instant T. Si demain, l'État dit c'est du 1 pour 3, les 1000 hectares vont se fondre comme peau de chagrin. Hein. Donc, voilà, c'est encore. Et ça reste encore un atout aujourd'hui.
Alors, on va parler particulièrement du conteneur, puisque c'est un sujet sur lequel on travaille au quotidien. Le conteneur peut vous concerner dans le sens où, aujourd'hui, à Dunkerque, on a un terminal qui est capable d'accueillir les plus grands porte-conteneurs au monde. Donc, on va parler toujours de TU, 20 Equivalent Units, en anglais. C'est les conteneurs les plus petits. Vous les multipliez par deux, vous avez un 40 pièces qui est plus courant. Et en fait, ce terminal-là a un énorme avantage dans le sens où, quand vous arrivez en mer du Nord, vous n'avez que 90 minutes pour escaler à pied, alors que sur les ports voisins, vous pouvez atteindre jusqu'à 7 heures pour le port du Havre, voire 13 heures sur les ports d'Anvers, avec les canaux, vous imaginez, les écluses, etc. C'est un avantage énorme, puisque ces navires qui font 400 mètres de long, aujourd'hui plus de 60 mètres de large, ont la capacité à être maintentionnés sur le port de Dunkerque. Ce terminal est un terminal qui est une filiale de la compagnie maritime française CMA-CGM. Donc la filiale s'appelle Terminal Link. On est sur un terminal de 1800 mètres au total avec 8 portiques. Et en fait, c'est un énorme avantage puisque ce terminal va nous permettre d'acheminer de la marchandise depuis toutes les origines et vers toutes les destinations. Vous voyez sur cette carte, on travaille, malgré que ce soit un terminal CMA-CGM, on travaille avec la plupart des compagnies maritimes et selon les intérêts que vous avez pour envoyer vers des zones d'exposition, des musées, on va pouvoir desservir des territoires sur l'Afrique de l'Ouest, le Moyen-Orient, l'Asie, l'Amérique de l'Est, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et également des zones en Océanie, Nouvelle-Calédonie, Papouasie, Nouméa. C'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Vous avez dans Maritime ce qu'on appelle des systèmes d'alliance maritime. Donc même si vous voyez un conteneur, un navire porte-conteneur avec la marque CMA-CGM, il faut savoir que vos transitaires, vos transporteurs qui vont négocier une offre maritime pour vous, vont pouvoir questionner plusieurs commissionnaires de transport qui vous donneront une cotation différente selon l'entité choisie. Le conteneur, c'est quelque chose quand même qui est moins cher en maritime qu'en aérien. Bien souvent, j'imagine que vous passez par l'avion pour acheminer la marchandise. Il faut savoir que le coût en aérien, c'est du coût au poids, alors qu'en conteneur, on est capable d'acheminer des marchandises à un prix assez moindre. Sur un côté environnemental, dû au fait de la massification, le navire porte-conteneur peut vous permettre aussi de réduire votre empreinte carbone, votre politique RSE. Donc le navire, même s'il va polluer beaucoup plus à l'instant T, peut être une solution à moyen et long terme. Il faut savoir aussi qu'en maritime, quand vous passez une réservation auprès d'une compagnie maritime, vous pouvez payer ce qu'on appelle un service premium, un service VIP, qui va vous permettre d'assurer un embarquement et respecter aussi vos délais pour arriver à temps pour l'exposition, etc. Et ça, je pense que c'est un point assez clé pour vous, puisque si demain vous avez l'exposition d'une date A et une date B, et que le délai n'est pas respecté, ça peut être vraiment une énorme problématique. Donc on travaille avec la majorité des compagnies maritimes, des compagnies européennes, les plus grandes au monde, mais également des compagnies asiatiques qui sont très présentes sur le port de Dunkerque.
Alors voilà, ça c'est une belle image. On se projette à 10 ans. Donc là, il faut s'imaginer que le terminal aujourd'hui, il est là. Et dans 10 ans, en fait, on aura un deuxième terminal avec un deuxième opérateur. Alors, je ne vais pas vous spoiler puisque je n'ai pas encore le nom du futur opérateur. Mais on pourra accueillir aujourd'hui, enfin, dans 10 ans, 4 méga porte-conteneurs de 400 mètres de long simultanément. Donc, c'est-à-dire que nous, ports, en fait, on s'engage, on va creuser 1 km, 1 km 2, à 18 mètres de profondeur pour pouvoir accueillir les fameux tirants d'eau. Donc, c'est-à-dire que c'est la face immergée de l'iceberg qu'on voit pas et pouvoir accueillir ces géants des mers. 400 mètres de long en cette période de Coupe du Monde, c'est 4 terrains de foot. Hein. Voilà, c'est un peu l'idée. Moi j'aime bien aussi quand je fais des visites de bord, faire un peu l'image avec la tour Eiffel. C'est que si vous penchez la tour Eiffel, qui fait 320 mètres, il n'y a rien qui dépasse d'un côté ou de l'autre. Hein. Donc voilà, c'est toujours une petite image sympathique de la taille de ces navires. Donc voilà, ça c'est le port, voilà, on se projette à 10 ans avec un nouvel opérateur, des nouveaux portiques. Et puis voilà, en espérant atteindre les chiffres de 2,5 millions ou 3 millions de VP, ce qui est marqué sur les études de trafic aujourd'hui. Et ça s'appelle le projet Cap 2020. Ouais, alors le service ferry avec la compagnie DFDS, hein, Julien a annoncé tout à l'heure. Alors aujourd'hui, on a 12 départs par jour sur le port de Douvres. Donc un départ tous les 2 heures. Alors on est plus petit que le port de Calais, hein, qui lui est vraiment spécialisé dans les liaisons entre la France et l'Angleterre. Mais 12 départs par jour sur Douvres. On a 6 à 8 départs par semaine sur Rosslare. Rosslare, c'est au sud de l'Irlande, à côté de Cork. Et demain, en fait, hein, on attend. C'est dans le tuyau, comme on dit, une liaison entre Dunkerque et Rosyth, qui est à côté d'Édimbourg. Puisqu'aujourd'hui, en fait, le gouvernement écossais n'a plus de ferry en fait, entre l'Angleterre et le continent. Hein, il y avait une ligne en Belgique qui s'est arrêtée. Et donc voilà, nous, on va essayer de développer ce trafic de ferry et également de passagers, hein, puisque depuis Dunkerque, si vous voulez aller en Irlande, vous pouvez y aller en bateau. Alors ça dure 24 heures, c'est certes un peu long, un peu plus secouant parce qu'on passe par la mer du Nord et la Manche, mais voilà, n'hésitez pas à tenter l'expérience en tout cas. Voilà, et on termine juste sur encore une petite minute sur la future zone logistique. On est toujours sur la commune de Lotte-Plage, hein, et puis donc voilà, et puis il y a une nouvelle zone, toujours un peu schématisée, qui s'appelle BLI, Dunkerque Logistique Internationale. Et ça c'est une image aussi, hein, on va avoir 400 000 m² d'entrepôts supplémentaires. Et ça c'est une petite projection pour les futures belles années en logistique du port de Dunkerque.
Alors, on voit en fait finalement que on a énormément d'investissements de la part des Flamands, dans le sens où, comme l'expliquait Maxence, aujourd'hui on a cette capacité d'avoir du stockage sécurisé à proximité du terminal. Juste pour conclure rapidement, et je laisserai le dernier mot à Maxence également, aujourd'hui en fait, nous en tant qu'entité portuaire, en port maritime de Dunkerque, on le dit souvent quand on va voir les prospects, les clients, on leur dit, vous savez, j'ai rien à vous vendre. En fait, on est plus sur de la promotion. Aujourd'hui, en fait, on est là pour vous accompagner, vous rediriger vers les bonnes personnes. Si vous cherchez une compagnie maritime, un transporteur qui a l'habitude, qui a une spécialité au niveau de la fragilité de la marchandise, sur de la marchandise qui peut être dangereuse, hors gabarit, etc., on va vous diriger vers les bonnes entités, que ce soit au niveau du transport ou au niveau de l'entreposage. Il faut savoir qu'on a parlé beaucoup de conteneurs, mais ça peut être également des conteneurs un peu hors gabarit qu'on peut retrouver sur des conteneurs flat par exemple. En fait, c'est des conteneurs plateforme qui vont permettre de charger d'énormes caisses en dépassant sur les largeurs et sur la hauteur. Ça peut être un sujet pour vous également. Donc on est là, on restera à votre écoute ensuite, même si vous avez des questions, pour vous guider au mieux sur les projets que vous avez au niveau local, au niveau international, et on essaiera de faire au mieux.
Par le timing. Donc, merci de votre attention. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Okay, merci beaucoup. Thank you very much. Donc, je vais passer la parole à Jean-Bernard Bouyabé, donc un collègue qui gère entre autres le master management portuaire maritime et c'est un des plus anciens de l'Université du Littoral de Val, vous le dire. Et donc, Linus is the head of the master of the Harbor Maritime Management Master. Ok.
Ok, merci beaucoup. Oui, un des plus anciens, mais j'espère que ça ne se voit pas.
Non, je parlais du master.
Ah d'accord, je pense que c'était vous. Parce que moi aussi, personnellement, je fais partie des plus anciens, effectivement, de l'UFCO. Mais peut-être moins ancien que le master, effectivement. Donc, je n'était pas prévu que j'intervienne. Et en l'absence d'un des intervenants de ce panel, donc des collègues ont estimé que ce serait utile, juste l'occasion de faire le lien entre justement ce qui a été présenté avec nos collègues, nos amis du port, du grand port maritime de Dunkerque, le lien qu'il y a entre cette activité portuaire et nos masters, et la formation qu'on dispense aux étudiants, et éventuellement le lien avec le thème principal de cette journée, qui est le transport par eau, je vais dire, parce qu'il y a fluvial et maritime du coup, les œuvres d'art. Alors je vais d'abord présenter rapidement le master et l'activité de transport maritime qu'on a au sein de ce master. Donc c'est un master que Falk et moi-même et Moïse pilotons sur la logistique au sens large, et dans lequel il y a le parcours supply chain, la modélisation, qui porte sur la partie proprement logistique au sens large, et puis un autre parcours qui porte sur le transport maritime, justement, et donc qui concerne toutes les activités de transport de marchandises, parfois maritime, essentiellement le transport de marchandises, parce que, comme l'a rappelé mon collègue, dans la région, il y a aussi les transports de voyageurs qui est calé, et il y a aussi le poisson qui est à Boulogne-sur-Mer. Dunkerque, c'est le côté. Donc, le transport de marchandises, Dunkerque, c'est le frac. Beaucoup plus, il me semble. Frac solide, frac liquide. Et donc, nous, on forme les étudiants sur ce master. Ce master n'est pas placé à Dunkerque par hasard, comme vous l'avez remarqué. Hein, Dunkerque est une plateforme logistique de très grande ampleur, troisième port de France, avec une grosse activité, même si la concurrence. Du Grand Nord, là, Anvers, Rotterdam, Amsterdam, jusqu'à Hambourg, joue un rôle d'ailleurs dans beaucoup de pions à Dunkerque. Hein, d'ailleurs, on réfléchit à travailler sur ce sujet-là. Qu'est-ce qui peut expliquer que certains entreprises qui sont dans la région de Dunkerque vont chercher des services à Rotterdam alors que le port est à côté? Ça, c'est une des mêmes préoccupations dans ces masters-là, par exemple. Et donc, le transport maritime, alors, pour rappeler rapidement, peut-être que ça a été discuté un petit peu ce matin, je n'étais pas là, malheureusement, je n'ai pas pu arriver à temps. Alors, le transport maritime, comme vous le savez, c'est l'un des modes de transport les plus utilisés dans le commerce international, le plus utilisé, 80-90%. Avec toutes les voies maritimes que vous connaissez, surtout le commerce international se fait beaucoup plus entre l'Asie et l'Europe, et, ou alors l'Asie et l'Amérique du Nord. Et vous connaissez les trois routes maritimes, le canal de Suez, le principal utilisé, il y a le cap par le cap, ça pour venir en Europe, et puis il y a la route du Nord qui commence à intéresser beaucoup, qui est beaucoup plus court mais qui pose beaucoup de problèmes à cause de la glace. Donc il faut des nerfs particuliers pour passer là-bas, des nerfs qui arrivent à casser la glace avec un film particulier. Et donc ce transport maritime, comme vous le savez, il est soumis à beaucoup d'aléas, beaucoup de soucis géopolitiques, de soucis de température, de soucis aussi d'aléas climatiques, d'insécurité, etc. Il y a le côté transport maritime sur lequel on travaille, et il y a le côté maintenant gestion portuaire, management portuaire. Et là, on forme les étudiants à apprendre à tous les métiers de l'activité portuaire, qui va du transit jusqu'à la conciliation en passant par le même la douane, la manutention portuaire et tous les métiers de la logistique. Voilà un petit peu pour ce qui concerne notre activité dans ce master. Alors, moi je ne suis pas spécialiste du transport fluvial, d'une part, et encore moins du transport des œuvres d'art. Et donc pour intervenir ici,
j'ai essayé d'aller faire quelques recherches très très rapides pour un petit peu faire le lien avec maintenant le thème de, ce, de cette journée. Et j'ai découvert que de plus en plus des œuvres d'art sont transportées par voie maritime. Autrefois, c'était d'après les recherches que j'ai sur lesquelles je suis tombé, autrefois, ça, ils étaient réticents à cause des problèmes d'insécurité. Bon, donc il y a eu une phase où le monde était encore beaucoup plus incertain, ça s'est calmé, ça a commencé à se développer, et c'est vrai que ces derniers temps, l'insécurité augmente encore avec, depuis quelques années, hein, avec les guerres, les conflits, et puis l'insécurité aussi. Au niveau même de, comment dirais-je, des épidémies, des chocs imprévus. Mais ça n'empêche pas que les œuvres d'art commencent à être utilisées de plus en plus par voie maritime. Alors, quelles sont, d'après les recherches, quels sont les types d'œuvres qui sont transportées? Sans doute, ça a dû être évoqué par les spécialistes hein, de ces œuvres artistiques. Ce sont des œuvres monumentales, des œuvres gigantesques qui sont... pas transportable par voie de conteneur, comme disait tout à l'heure Maxime Paulus. Ça peut être par exemple des galeries, des galeries, des sculptures gigantesques. Sans doute, Luc peut nous donner des exemples concrets. Des galeries dans les biennales internationales, les biennales de Venise, de Sydney, j'ai découvert ces biennales-là, où on transporte les œuvres d'art par voie maritime. Des répliques, des pièces archéologiques qui sont la plupart du temps très très lourdes. Ça, ce sont des choses qui sont transportées par, par voie maritime de plus en plus. Je n'ai pas les statistiques, mais pour l'instant, j'ai trouvé ces éléments-là. Alors, quels sont les problèmes que ça pose? Les contraintes, surtout. Il y a les contraintes d'humidité. Transportées par voie maritime, implique gérer l'humidité et surtout la salinité, parce que ces œuvres-là sont, peuvent être exposées à l'air marin, très très chargé de sel. Et ça, ça peut rendre corrosif, ça peut abîmer les œuvres artistiques. Donc ça, c'est les principales contraintes. Et d'autres contraintes, c'est les variations de température. Ces variations sont parfois brutales. Dans les zones tropicales, par exemple, j'ai découvert qu'à l'intérieur de ces bateaux-là, la température peut monter jusqu'à 50 degrés. Donc il faut gérer, gérer cela. Donc il y a ces contraintes-là. Et la troisième type de contrainte, c'est les délais. Parce que le transport maritime est beaucoup plus long que l'aérien, dont on parlait tout à l'heure, que le routier. Et donc, pour transporter, il faut être patient, parce que c'est un peu plus long. Voilà ce que j'ai trouvé. Alors, quels sont les modèles logistiques qui sont utilisés pour ces transports maritimes? Alors, ce sont... mes collègues ont rappelé tout à l'heure qu'il y a très peu de transports par conteneur standard. Il y a deux types de conteneurs qu'on nous a rappelés, le 20 pieds et les 40 pieds. Les œuvres d'artistes ne sont pas transportées par conteneurs standard dans les deux types de conteneurs. Sont transportées par contre, certaines par des conteneurs spéciaux qu'on appelle les reefers, qui sont les conteneurs réfrigérés, pardon, pour garder une température autour de 20 degrés. Apparemment, les œuvres artistiques, pour les transporter, il faut que ce soit une température ni trop basse ni trop élevée, donc autour de 20 degrés. Et il faut aussi gérer l'emballage, les emballages. Les matériaux doivent être neutres chimiquement, isothermes, etc. Quels sont les convoyeurs? Alors, il y a aussi les problèmes de convoyeurs et les traçabilités. Donc on arrive à les tracer avec des outils habituels comme les RFID, la radio, et désormais l'Internet des objets, l'IoT. Il y a une nouvelle forme de traçabilité qui se développe avec l'Internet, ce qu'on appelle l'IoT. Et on peut y mettre aussi des capteurs, des données, on les appelle les data loggers, qui permettent de capter l'humidité à l'intérieur, parce que ce sont des œuvres très fragiles, il faut faire très attention. Et puis les vibrations. Voilà, parce que le transport maritime bouge, il y a beaucoup de vibrations, il y a même des conteneurs qui tombent à l'eau. Moi, j'avais travaillé dessus avec des étudiants à un certain moment. Donc, ces capteurs arrivent à enregistrer les vibrations et puis aussi la température. Bon, de façon générale, pour conclure, je ne vais pas être très long, ce sont des marchandises qu'on appelle break bulk, qui sont hors gabarit. Alors, si M. Maxime Marsens Produce était là, je lui aurais donné, redonné le micro pour passer sur son sujet, parce qu'il a, il a fait un travail de recherche là-dessus sur les marchandises hors gabarit. Et donc, tout ce qui concerne le transport des œuvres là rentre dans le cadre de ces break bulks. Donc voilà, tu avais des contraintes sur lesquelles je vais pas revenir. Là, c'est sa spécialité. Il pourra vous expliquer comment on gère sur le plan portuaire la manutention des œuvres d'art, des objets qui sont hors gabarit comme, comme des œuvres d'art. Donc voilà un petit peu. Et puis voilà, pour conclure, je dirais que c'est en ayant fait cette petite recherche, ça donne envie de continuer à travailler sur ce sujet-là parce que. François, c'est un mérite incroyable de s'être intéressé à ça grâce à Luc. Je pense que dans le master, on a intérêt à renforcer aussi ces enseignements-là. On va pouvoir peut-être former des étudiants aussi dans ce réseau-là parce qu'on pourra du coup envoyer aussi nos étudiants travailler dans des musées, dans des galeries, pour gérer la logistique de ces produits qui sont assez particuliers. Je vous remercie.
Merci Jean-Bernard. Je vais demander à Maxence et à Julien de revenir sur scène. Vous êtes évidemment dédié à nous poser des questions ou des remarques. Vous êtes bien invité à poser des questions pour vous donner vos remarques. Vous vous demandez si vous juste vous présenter parce que ça ne fait pas tout le monde.
Oui, bonjour, je suis Emmanuel Sarki, conservateur directeur de musique. Je voulais juste demander dans votre sens, il y a toute une étude qui peut être faite sur l'histoire et les transports maritimes d'œuvres d'art. Catherine II qui achète une collection en Allemagne, donc au XVIIIe siècle, hein, le bateau sombre avec toute sa cargaison de tableaux. Il y a l'autre exemple, heureux. Celui de la collection de tableaux de Jean-Pierre Bouteloc, hein, c'est un très grand collectionneur américain, qui avait une partie de sa collection entreposée à Londres et il veut la transporter à New York, et il règne à moins connaître peut-être l'histoire, hein, et donc il prévoit, puisqu'il était propriétaire de la compagnie et propriétaire du Titanic, il prévoit de la transporter par le Titanic. Et puis au dernier moment, changement de point de vue, il décide de ne pas utiliser Titanic. Et alors, il y aura même toute une polémique aux États-Unis. On l'accusera d'avoir su que le bateau allait couler. Bon, enfin, toujours est-il, moi j'ai eu, alors c'était moins épique, mais lorsque j'étais directeur à Dijon, j'avais un conservateur de la section art moderne qui s'appelait Granville, et dès qu'on prêtait quelque chose aux États-Unis, il voulait utiliser un bateau. Alors j'ai vite compris pourquoi. C'était pas pour le transport de l'œuvre, c'est parce qu'il accompagnait l'œuvre et il préférait faire un voyage en bateau aux États-Unis. Voilà, c'était pour terminer sur le mode ironique. Mais en tout cas, il y a toute une histoire du transport par navire des œuvres d'art. C'est pas une question.
Non,
j'ai une invitation.
Merci beaucoup pour votre remarque. Ouais.
Bonjour, Marie-Marie. J'avais une question sur le canal Seine-Nord dont vous avez parlé, mais je ne connaissais pas l'arrivée prochaine.
Ça fait quelques décennies qu'on en parle et ça devrait arriver. C'est lancé. Il y a tout un projet sur le rehaussement des ponts. La préparation de l'acheminement jusqu'à Marquion, notamment, le port de Marquion, ça va nous permettre d'aller desservir le nord de la région parisienne, la Somme, etc. Et normalement, on est censé avoir la possibilité d'utiliser pour une première fois le canal Seine-Nord d'ici 2038, si je ne me trompe pas. Donc c'est pas demain, mais il faut s'y préparer mentalement et commencer à réfléchir aussi au niveau des infrastructures, puisque là, on le voit autour du port, on a quand même pas mal de solutions de stockage qui arrivent. Mais autour de ce canal Seine-Nord, on a également des infrastructures qui se préparent pour accueillir des acheminements, des livraisons que ce soit au niveau des biens manufacturés, mais également tout ce qui est agricole, puisque on a la chance d'avoir une terre fertile dans les Hauts-de-France, que ce soit la betterave sucrière, les pommes de terre, les céréales, mais également ça peut concerner des produits en gabarit, comme ce qu'on va retrouver sur la sidérurgie, des bobines, des brames d'acier, etc., des matières qui nécessitent une capacité de transport pour la matière assez volumineuse et lourde, du coup. Et pour faire un parallèle aussi, je profite d'avoir le micro, pour faire un parallèle à ce qu'on disait tout à l'heure du transfert de l'aérien vers le maritime, en fait, on le voit aussi sur une activité qui me fait penser à ça, c'est le secteur du luxe. En fait, le secteur du luxe avait pour habitude d'utiliser l'aérien pour tout ce qui est parfumerie, cosmétique, maroquinerie, etc. Étant donné la facilité qu'on peut avoir maintenant et la sécurité qu'on peut avoir de plus en plus au niveau du maritime, ce secteur du luxe recherche aussi des alternatives économiques, écologiques, et vont diriger doucement mais sûrement vers le maritime. Et c'est quelque chose qu'on voit arriver sur le port de Dunkerque, notamment grâce à cette proximité qu'on peut avoir et ces connexions qu'on a à l'international, mais également sur quelque chose dont on n'a pas cité tout à l'heure, mais qui est primordial, c'est l'absence de grève depuis 34 ans sur le port de Dunkerque. On l'entend souvent dans les médias, les ports français sont en grève, etc. Il faut savoir qu'à Dunkerque, on est le petit village gaulois, c'est l'exception depuis 34 ans. On n'a pas subi de grève sur le terminal depuis 34 ans. Et ça, c'est quand même quelque chose qui vous rassure en termes de fiabilité. Quand, de nouveau, si vous avez une échéance, le fait de ne pas avoir de problématique d'acheminement, de manutention et d'acheminement par transport maritime, l'absence de grève, c'est quelque chose qui est super important. Je l'étale un peu trop, mais désolé.
Ok, merci beaucoup.
Sarah Ekrevel, qui est plutôt dans l'Isle Chirac. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'effectivement, le maritime, on ne l'utilise pas beaucoup dans les musées. Un peu plus dans le monde du marché de l'art, un peu plus dans le monde de l'art contemporain et des galeries, notamment pour les questions de format et de coût. Dans les musées, il y a plusieurs freins, vous en avez parlé. Je pense que le principal, numéro un, ce sont effectivement les conditions de conservation qui sont offertes par rapport à d'autres moyens de transport. Parce que même si on a des data loggers, en fait, si l'humidité explose pendant toute la traversée, on ne peut rien faire, à part constater qu'il va y avoir un sinistre impédé. L'aérien a la chance d'être beaucoup plus rapide, donc le risque il est pris sur un temps aussi beaucoup plus court. On a également beaucoup moins de ruptures de charge, ça c'est quelque chose auquel on est extrêmement attentif au sein des musées. Et surtout, on a un maillage aujourd'hui avec l'aérien, avec des transitaires volards, avec des transporteurs volards, qui nous permettent, alors pas à toutes les destinations, mais à la grande partie des destinations bien ou bas, de pouvoir accompagner les œuvres du point A au point B quasiment. On ne va pas toujours sur le tarmac, mais généralement on ne va pas loin, et sur les vols fermés, on peut même y aller dans certains pays. On monte à bord, on convoie. Alors on n'est pas maître à bord, évidemment. Si le cargo est reporté, on décharge et on reporte la marchandise. Mais on a des solutions repli. On connaît les aéroports, on a des personnes avec nous qui sont habilitées aux aéroports, qui peuvent nous indiquer où on va mettre les œuvres en repli. On peut ressortir l'aéroport pour aller chez un transporteur. Enfin voilà, on a vraiment une infrastructure qui nous permet de rebondir. Et je pense que c'est clairement ce qui nous manque aujourd'hui sur le maritime. Et enfin, on l'a dit, hein, mais c'est la question des délais. Puisqu'il y a le délai de quand est-ce que ça part, le délai de quand est-ce que ça arrive. Nous, notre gros du flux, je pense que le second qui tout sera d'accord, hein, c'est quand même l'humain, c'est quand même les expositions temporaires. Donc on est tenu d'arriver à une date précise. Voilà, et même si un vol cargo est annulé et qu'on va partir sur celui en main, finalement, on arrive à peu près à ce que ça rentre dans le planning. On a moins de visibilité sur du maritime. Et comme le reste est plus long, voilà, je pense que c'est ça les freins aujourd'hui. On est nombreux à vouloir travailler dessus. Et enfin, pardon, dernier point que je n'ai pas cité. Il y a vraiment une question de volume. Parce que là, c'est génial, hein, ce que vous proposez. Moi, ça me fait rêver. Nous, on a des prix en Océanie. Enfin, je voir que ça, qu'on trouve d'autres moyens de transport. Mais dans les faits, moi, je vais avoir deux caisses. Alors, elles vont être perdues dans un lifter. Enfin, voilà. Donc, comment je peux, avec mes deux caisses, avoir un traitement quand même objet fragile, objet de valeur, et avoir un suivi, enfin, voilà, avoir le service qu'on peut avoir aujourd'hui avec la... Je pense que c'est ça les leviers véritablement dont on a besoin.
Là, c'est vrai que je souligne les contraintes. J'imagine qu'en plus, les expositions s'enchaînent. Donc l'aérien, forcément, c'est un avantage réel. En plus de ça, bien souvent, les musées, les expositions sont dans des métropoles, dans des grandes villes. Souvent, on y retrouve un aéroport, quand même. C'est pas le cas du maritime, puisque naturellement, on est proche de la mer, mais pas forcément proche du capital. Quand vous êtes dans un pays enclavé, comme vous dites, on a des ruptures de charge, etc. Après, il faut savoir quand même qu'au-delà de l'aspect conteneur complet, on a des transitaires qui proposent ce qu'on appelle du LCL, en anglais Less Container Load, c'est du groupage en fait. En fait, ça vous permet, au sein d'un conteneur, de grouper plusieurs petits clients qui n'ont pas la capacité de charger un conteneur complet. Et on fait la même chose à destination, c'est ce qu'on appelle le dégroupage. Le transitaire va décharger vers plusieurs clients. Donc lui, ça arrange en fait pour aller chercher du fret auprès de plusieurs petits clients qui n'ont pas cette capacité à charger complètement un conteneur, et selon sa spécialité, il va proposer des origines et des destinations bien précises. Et c'est le cas notamment sur l'Océanie, vous avez cité la Nouvelle-Calédonie, si je ne me trompe pas, l'Océanie en général. Sur l'Océanie, comme c'est un territoire où il y a une demande énorme venant d'Europe, on a des transitaires qui proposent des groupages justement vers l'Océanie au sein de conteneurs. Après, c'est sûr que sur la partie humidité, gestion des retours de charges, etc., c'est un peu plus complexe puisque du musée au port fluvial, vous avez une première intention en transport, premier kilomètre, vous chargez sur la barge, vous déchargez sur un porte-conteneur pour réacheminer avec un camion. Donc, c'est sûr que l'avion, face à tout ça, il est plus intéressant. Après, tout dépend du délai que vous pouvez envisager. Si vous avez un laps de temps assez sérieux pour ne pas oublier les 50 jours de mer, etc. Mais forcément, c'est, avec ces contraintes-là, le maritime reste un frein, quand même, je l'imagine.
Ok, merci beaucoup. Je pense qu'il y a plein de sujets aussi à approfondir. Donc, ce que je vous propose, parce que là, on a dépassé légèrement quand même le quart d'heure académique.